Radio Kapi.
Succession de Corneille Nangala Séni, toujours pas de compromis entre les 8 confessions religieuses, alors que l'ECC et la SENCO demandent aux 6 autres de proposer un autre candidat, ces dernières disent maintenir leur position d'avant et souhaitent que l'ECC et la SENCO y adhèrent. Sud Kivu, les habitants d'Ouvira et ses environs dans la psychose depuis 3 jours, en cause des messages d'appel à la haine tribale distillés dans les réseaux sociaux entre les communautés locales. La MONUSCO appelle à la paix. Le chef du sous-bureau Isaka Danyosi est notre invité ce matin. Rentrée scolaire effective hier dans plusieurs coins de la RDC. À Kananga cependant, le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 dit avoir noté une faible présence des élèves dans les écoles périphériques où les parents peinent à préparer la rentrée scolaire. Madame, Messieurs, bonjour. Séni, toujours pas de consensus trouvé entre les 8 confessions religieuses qui n'ont pas siégé lundi faute de compromis. Selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, avec la SENCO, les 2 confessions ont évolué en demandant aux 6 autres de proposer un autre candidat à la succession de Corneille Nangala Séni, mais les 6 ont maintenu leur position d'avant, affirmant que le travail était déjà fait et qu'il suffisait pour l'ECC et la SENCO d'y adhérer. Ainsi, un rapport sera incessamment remis au bureau de l'Assemblée nationale par le présidium de la plateforme Confession religieuse pour constater l'échec des négociations. Pasteur Eric Senga revient ici sur les points de blocage et se montre rassurant en comptant sur la bonne foi des autres confessions. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Disons que ce qui a bloqué dans ces travaux, c'est les conflits d'interprétation de la correspondance du président de l'Assemblée nationale, parce que de notre côté, donc le présidium SSC-SENCO, nous avions pensé que cette convocation était de nature à nous permettre de revenir dans des discussions conformément à l'article 12, le point 5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, à notre sens, il était question de rester dans les termes de la loi, c'est-à-dire trouver de nouvelles possibilités dans le respect de la même procédure. Par ailleurs, nos confrères ont estimé plutôt que le travail était déjà bien fait, les PV étaient déposés et nous n'avions que à nous inscrire dans leur démarche. Ce qui ne pouvait pas aller parce que nous n'avons jamais pris part aux travaux qui ont sanctionné ces PV. Nous n'avons jamais participé à ces discussions. Donc ces documents qu'on qualifie des PV a été élaboré en dehors de notre cadre légal, en dehors de notre plateforme. C'est un document qui, à notre sens, viole fondamentalement les articles 8, 16, 17 et 18 de notre charte, mais aussi et surtout les articles 10 et 12 de la loi sur la CENI.
Selon le tweet de l'évêque Dodo Kamba, président des églises de réveil, relayé par plusieurs médias, la charte qui régit les confessions religieuses ne dit pas que c'est le présidium qui va déposer le PV au bureau de l'Assemblée nationale. Toutefois, il dit rester ouvert à toute négociation avec la SENCO et les CC. Après cet échec constaté dans les négociations entre les confessions religieuses, comment alors sortir du blocage? Tentative de réponse avec vous, Jeff Ngoy.
Rappelons que la charte qui régit la plateforme confession religieuse fixe les règles du jeu. Elle prévoit le consensus pour toute décision, à défaut renvoie au vote transparent. Et c'est ce vote auquel s'en tiennent 6 confessions religieuses contre le consensus prôné par la SENCO et l'ECC, présidium de la plateforme. Selon certains constitutionnalistes, il revient à l'Assemblée nationale de trancher en interrogeant la même charte. Elle devra confronter les procès-verbaux en sa possession ou le seul qu'elle aura reçu des 6 confessions religieuses ayant procédé au vote sans la participation des 2 autres. Mais déjà, on ira aux élections de 2023 sur base d'une contestation de celui qui est appelé à présider la centrale électorale. Le dernier mot reviendra au président de la République, soit d'entériner la décision de l'Assemblée nationale par une ordonnance d'investiture, soit de rejeter carrément, comme ce fut le cas pour Ronsard Malonda.
Affaire RAM, le Front commun pour le Congo dénonce la programmation de la plénière consacrée aux réponses du ministre des PTNTIC au-delà du réglementaire. Dans sa déclaration d'hier à Kinshasa, le FCC qualifie cette fixation tardive de la plénière de manœuvre dilatoire orchestrée par le bureau pour étouffer le vote parlementaire à faire son travail de contrôle parlementaire. Ils exigent la démission du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies PTNTIC et la suppression sans condition de la taxe RAM. Michel Kifine Dangoy nous en dit plus.
Dans leur déclaration, les députés du FCC exigent la suppression sans condition de la taxe RAM, le remboursement de la totalité du crédit frauduleusement soustrait, ainsi que la démission du ministre de PT Antique et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération. Ils plaident pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération, qualifiée d'escroquerie de la population. Le FCC motive sa position par son constat de manque de volonté délibérée des lions sacrés, non seulement de saboter les initiatives parlementaires, mais surtout de renvoyer au-delà du délai réglementaire la plénière consacrée à la réponse du ministre de PT Antique. Ce, en vue de tromper la vigilance de la population et de couvrir par des manœuvres politiciennes les membres du gouvernement mis en cause dans cette affaire de RAM. Les députés du FCC annoncent à cet effet l'initiative d'une motion de défiance contre le ministre Augustin Kibassa.
Direction le Sud Kivu. La MONUSCO appelle toutes les communautés d'Uvira, des hauts et moyens plateaux à la paix. Cet appel a été lancé hier par le chef du sous-bureau de la MONUSCO à la suite des messages d'appel à la haine tribale qui ont envahi les réseaux sociaux ces trois derniers jours. Ces derniers ont créé une psychose générale dans la ville d'Uvira. Isaac Kadagnosi condamne fermement ces appels à la haine. Il est au micro de Fiston Ngoma Mayabala.
J'invite toutes les communautés d'Uvira, toutes catégories confondues, hein, toutes les ethnies, que ce soit les Babembe, les Bafuliro, les Banyamulenge, les Banindou, les Bavira, à désarmer leur cœur. Il faut qu'ils désarment leur cœur. Il faut que les gens s'acceptent. Et il faut que les gens puissent respecter la dignité humaine de tout un chacun. Dans le respect des différences, nous sommes tous des êtres humains, nous appartenons à la race humaine. Mon appel, c'est de désarmer les cœurs. Nous demandons encore une fois aux leaders communautaires, religieux, politiques, de s'impliquer davantage pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le calme. Et nous, notre appel, c'est la retenue. Il n'y a rien dans la vengeance, il n'y a rien de profitable à qui que ce soit, dans la haine ou dans la vengeance. Par contre, on a tout à gagner dans le calme, dans la sérénité, dans le dialogue, un dialogue franc, empreint de vérité et de repentance aussi, pourquoi pas, il faut appeler les choses par leur nom, pour que ceux qui se sont sentis frustrés d'une manière ou d'une autre puissent avoir le courage de pardonner, de s'accepter et de reprendre la vie commune. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous égaux devant la loi. Et nous nous devons respect mutuel et le respect de nos dignités respectives.
7 ans après ce qu'ils considèrent comme le début des massacres des civils dans la région de Beni, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, exprime sa consternation. Dans une déclaration rendue publique hier, cette organisation se désole du drame humain que cause l'activisme des groupes armés dans cette partie du pays. Elle exhorte les habitants à soutenir l'armée et l'état de siège mis en place pour restaurer la sécurité. Écoutez plutôt Maître Omar Kavota, directeur exécutif du CEPADO, dans ses propos recueillis par André Kitenge.
Le CEPADO déplore qu'à la suite de cette barbarie, au moins 3750 civils ont été sauvagement tués et près de 1800 autres kidnappés dans différents champs, villages et agglomérations. Au moins 3430 maisons ont été incendiées, 125 véhicules incendiés sur les axes routiers et 130 écoles et structures médicales détruites. Le CEPADO, qui espère que ces crimes de masse commis par les ADF-MTM ne resteront pas impunis, soutient qu'après cet état de tumulte, l'État congolais, la population et la communauté internationale ont intérêt à parler d'un même langage quant à l'identité de l'ennemi et à l'approche mise à place pour les traquer. Dans cette perspective, notre organisation exhorte les uns et les autres à soutenir le FRDC dans ses combats contre les terroristes à la base de la tragédie vécue ici. Elle encourage à l'appropriation par tous du régime de l'état de siège.
Vous le savez, le ministre de l'EPST a donné hier le coup d'envoi de la rentrée scolaire en RDC, ce au complexe scolaire Benaka Bongo de Mbujimayi. À Kananga, le directeur de la province éducationnelle Kasaï Central 1 se dit satisfait de l'effectivité de la rentrée des classes hier. Il a dit à la suite d'une ronde effectuée dans plusieurs écoles publiques et privées de la ville de Kananga, Léon Tosuesu indique avoir noté que pour les écoles périphériques où les parents ont eu de la peine à préparer la rentrée, il y a eu une faible faible présence des élèves. Rappelant que l'État a décidé que l'école soit gratuite, il appelle les parents à envoyer les enfants à l'école parce que leur avenir en dépend. Léon Tosuesue est au micro de François Kadima.
Nous devons renforcer la sensibilisation auprès des parents, des communautés, pour que tous les enfants de 6 à 12 ans ou plus se retrouvent à l'école. Qu'on n'ait plus aucun enfant qui n'étudie pas ou qui reste à la maison. Parce que le chef de l'État a fait sa part, il a martelé, et le ministre Tony Mwabakazadi ne cesse de marteler là-dessus. On veut que la gratuité soit réellement effective. Dans notre province, c'est une réalité. La gratuité est là. Dans les écoles primaires publiques, les enfants ne payent plus rien. Et il n'y a plus aucune raison qui peut pousser les parents à garder leurs enfants à la maison. Tous les enfants doivent venir à l'école. Aussi pour permettre à ce que ces enfants-là qui arrivent à l'école ne quittent plus, le ministère de l'EPST a mis en place un code de bonne conduite de l'enseignant que nous appelons code 22. C'est un code exclusivement pour les enseignants.
À Boutembo, rentrée des classes timides hier, dans la plupart des écoles publiques, les rares élèves qui se sont présentés n'ont pas suivi les cours. Les enseignants étaient tous absents, mais dans les écoles conventionnées catholiques, la reprise était effective en dépit de l'absence de certains enseignants. Grévis Saloum nous fait le point dans ce reportage.
Ce n'était pas l'ambiance habituelle de la rentrée scolaire dans les écoles publiques que nous avons visitées ce lundi matin. Un petit nombre d'élèves étaient présents dans les cours d'école. Faute d'avoir trouvé les enseignants, ils sont tous rentrés à la maison à midi des matinées. Mais les inscriptions de nouveaux élèves se poursuivent dans les écoles. Dans les établissements scolaires conventionnés catholiques, la rentrée était effective. Dans les écoles privées, c'est une rentrée des plus normales. Les enseignants élèves ont répondu présents. C'est notamment le cas du complet scolaire Les Aigles, où les enseignants ont directement dispensé les premières leçons.
Mes amis, je compte des 0 jusqu'à 10.
10 à 10.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok, très bien, on rencontre ton ami.
Du côté du syndicat des enseignants catholiques, on expliquait être en grève. Et responsable COFIC et des réflexions sont menées pour décider de nouvelles dispositions. Au syndicat des enseignants du Congo, le mot d'ordre des grèves est maintenu jusqu'à ce que le gouvernement va répondre à les revendications liées notamment à l'alignement des enseignants nouvellement recrutés sur les listes des pays et la suppression des zones salariales. Boutembo, Grévis Saloumou, Radio Okapi.
Santé. L'épidémie de rougeole a été déclarée dans la ville de Kinshasa, dans les zones de santé de Kingabwa, Police, Nsele et Massina 2. Cette annonce a été faite le week-end dernier par la ministre provinciale de la Santé publique, selon Lisa Nimbalemba. L'augmentation brusque ces trois dernières semaines, avec une proportion grande des cas confirmés par le laboratoire de l'INRB au-dessus du seuil attendu, a poussé le gouvernement provincial à affirmer la présence d'une épidémie de rougeole dans la capitale. Plus de était avec vous, Alain Rongmouchinj.
Prenant en compte l'ampleur actuelle de la maladie, l'interconnectivité des zones de santé de la ville de Kinshasa avec d'autres provinces, le rapport entre cette épidémie et la malnutrition chronique qui sévit dans la ville de Kinshasa, avec une prévalence de 43%, des mesures appropriées s'avèrent indispensables pour contrôler cette épidémie, note la ministre provinciale de la Santé. Ces mesures, selon Lisa Nimbalemba, consistent à renforcer les activités de surveillance épidémiologique sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, organiser des campagnes de vaccination de masse contre la rougeole ciblant les enfants de 6 mois à 14 ans dans les zones de santé touchées et zones de santé voisines, améliorer la prise en charge médicale gratuite de tous les cas de rougeole au niveau des structures sanitaires de la ville, améliorer l'état nutritionnel des enfants par la supplémentation en vitamine A et nutriments, ainsi que renforcer la sensibilisation de la population quant à la lutte contre l'expansion de la maladie.
Elle souligne que la vaccination est la seule mesure de santé publique pouvant mettre fin à l'épidémie de rougeole pour interrompre définitivement la chaîne de transmission de cette maladie et éviter les épidémies futures. Au moins 95% de la population doit être immunisée, dit-elle.
Actualité Afrique Monde.
Après les Panama Papers en 2016, les Paradise Papers en 2017, les Mauritius Leaks en 2019 et les Luanda Leaks en 2020, Voici les Pandora Papers. Le consortium international des journalistes d'investigation révèle avoir découvert que 336 responsables politiques dans le monde auraient dissimulé des fonds dans des sociétés offshore et des paradis fiscaux afin d'échapper aux impôts. Parmi les responsables politiques incriminés, 43 sont des Africains, 10 d'entre eux sont du Nigeria, pays le plus représenté, suivi de l'Angola avec 9 responsables politiques incriminés et 5 pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi le Tchad, le Gabon, le Congo-Brazzaville.
L'invité.
Il nous vient du Sud Kivu. La ville d'Uvira et ses environs vivent dans la psychose depuis 3 jours à la suite des messages et discours haineux distillés dans les réseaux sociaux entre les communautés locales. La MONUSCO sort de son silence pour condamner avec la dernière énergie ces messages d'hostilité et appelle les uns et les autres à la retenue, seul gage de la paix durable dans la région. Le chef du sous-bureau de la MONUSCO, Isaac Adanyoussi, est notre invité. Il s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Bonjour Monsieur Isaac Adanyoussi.
Bonjour.
Vous êtes chef du sous-bureau de la MONUSCO. Quelle est la situation telle que vous la lisez actuellement sur la ville d'Uvira, les hauts et moyens plateaux de la région?
À vrai dire, la situation est tendue, extrêmement tendue. Les positions sont tranchées. C'est vraiment inhabituel ce que nous vivons depuis les 3 derniers jours parce que il y a un malentendu ou un problème entre 2 communautés. Ethniques, dont les Banyamulenge et les Bafuliro. Alors, il se fait que les 2 camps sont en train de poser des actes qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, mais plutôt qui vont vers l'escalade d'une situation qui risque de nous échapper. Lorsqu'il y a des appels à la violence, à la haine tribale de part et d'autre, et lorsque personne ne lève la voix pour dire qu'il faut arrêter ces appels, qu'il faut condamner ces appels avec la plus grande énergie, c'est inquiétant. Au contraire, ces appels sont promus sur les réseaux sociaux, sont diffusés largement sur les plateformes WhatsApp, Facebook et autres. Il y a des réunions qui se sont tenues le week-end à Uvira dans des hôtels. Nous sommes au courant, nous avons porté tout cela à la connaissance des autorités locales aussi, qui partagent nos inquiétudes. Nous espérons que le calme va revenir. En tout cas, c'est notre souhait.
Pensez-vous que la situation actuelle que vous décrivez là est différente des fois passées? En d'autres termes, qu'est-ce qui serait l'effet déclencheur à ces jours de la situation que vous venez de décrire?
Je pense que la violence est montée d'un cran supérieur. La situation qui prévaut actuellement, à mon avis, est vraiment inhabituelle. C'est différent de ce qui prévalait ici à Uvira. Je peux dire que les hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et Mwenga ne sont pas sans problème. Mais ce que nous vivons, ce que nous entendons, ce que nous voyons depuis les 3 derniers jours nous inquiète. Et c'est tellement inquiétant qu'il y a eu une réunion du Conseil local de sécurité pour réfléchir sur quels moyens utiliser pour ramener les communautés antagonistes à la table du dialogue, de la discussion, de la compréhension et pour dépassionner les débats, les discussions qui vont bon train sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a un appel au meurtre ou à la haine tribale d'un camp et que personne ne lève la voix pour condamner cela, je dis encore une fois, c'est inacceptable. Et pour nous, à la MONUSCO, nous condamnons cela. Et nous demandons que l'apaisement revienne et que des bonnes volontés se lèvent pour tenir un discours d'apaisement, de rassemblement qui est indispensable à tout développement.
La MONUSCO, vous tirez la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui vous inquiète, vous, la MONUSCO, par rapport à tous ces messages, à cette situation actuelle?
Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des réunions de préparation où des groupes se prépare pour passer à l'acte, pour exécuter les messages qui sont diffusés, largement relayés. Et il y a des réunions dans lesquelles les autres se préparent pour répondre en cas de passage à l'acte. Mais lorsqu'on peut prévenir la paix, il vaut mieux la prévenir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en tirant la sonnette d'alarme.
Un appel d'apaisement à Uvira et aux différentes communautés qui vous écoutent en ce moment, en tant que MONUSCO.
J'invite toutes les communautés d'Uvira, toutes catégories confondues, toutes les ethnies, que ce soit les Babembe, les Bafuliro, les Banyamulenge, les Banindou, les Bavira, à désarmer leur cœur. Il faut qu'ils désarment leur cœur. Il faut que les gens s'acceptent. Et il faut que les gens puissent respecter la dignité humaine de tout un chacun. Dans le respect des différences, nous sommes tous des êtres humains, nous appartenons à la race humaine. Mon appel, c'est de désarmer les cœurs. Nous allons continuer par initier des contacts, des discussions. Toute la journée, nous avons rencontré des leaders, des communautés, nous avons rencontré les autorités pour discuter de la situation. Et je remercie les bonnes volontés, que ce soit au niveau local ou au niveau provincial, qui se sont impliquées pour limiter les dégâts aujourd'hui. Parce que ce qui était prévu le week-end,
si cela devrait s'exécuter aujourd'hui à Ovira, la situation allait être plus complexe. Et au cas où ça dégénérait, on pouvait perdre le contrôle de la situation. Nous demandons encore une fois aux leaders communautaires, religieux, politiques, de s'impliquer davantage pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le calme. Et nous, notre appel, c'est la retenue. Il n'y a rien dans la vengeance, il n'y a rien de profitable à qui que ce soit, dans la haine ou dans la vengeance. Par contre, on a tout à gagner dans le calme, dans la sérénité, dans le dialogue, un dialogue franc, empreint de vérité et de repentance aussi. Pourquoi pas, il faut appeler les choses par leur nom, pour que ceux qui se sont sentis frustrés d'une manière ou d'une autre puissent avoir le courage de pardonner, de s'accepter et de reprendre la vie commune. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous égaux devant la loi. Et nous nous devons respect mutuel et le respect de nos dignités respectives.
Merci beaucoup, Monsieur Issaka.
Le chef du sous-bureau de la MONUSCO au Sud Kivu s'entretenait avec Fiston Ngoma. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongouchinj. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiokapi.net. Merci.